L'AJT du local.
À 12h15. Sur 107.9, 101.7, à l'autre radio, à Château-Gontier et puis à Laval aussi.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission L'AJT du local. Nous sommes mercredi 23 décembre. Bonjour Anthony.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Donc oui, Anthony qui est avec moi cette semaine, donc ce n'est plus clair, mais Anthony, nouvelle voix, et donc nouvel animateur. On est ravis, évidemment, et donc on va commencer cette émission, bien sûr, avec une médaille d'or mayonnaise. Et oui, Lise Legros a été sacrée meilleure apprentie de France en coiffure d'âme. Elle travaille dans un salon à l'huisserie et nous partagera son expérience. Interview autour des associations consacrées aujourd'hui au dispositif local d'accompagnement et aux outils d'accompagnement proposés par les banques. Et on terminera cette émission par le feuilleton gourmand chéri au thé chocolat qui se poursuit avec un zoom sur la fabrication et les recettes, alors sans tout dévoiler, hein, mais des chocolats.
Mais avant tout ça, jetons un petit coup d'œil sur l'actualité et pas d'amélioration pour la circulation du virus.
En Mayenne, selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé, le taux d'incidence est stable à 121,5 cas pour 100 000 habitants. Le taux de positivité, lui, passe de 7,7% à 5,8%. 89 personnes sont hospitalisées au total dans le département. À l'hôpital de Laval, le service de réanimation est quasiment à 100% de ses capacités depuis plusieurs semaines. Selon le chef du service réanimation, le docteur Hussein Yassine, les 14 lits hier étaient occupés, dont 6 par des patients Covid. Une dizaine de malades ont d'ailleurs été refusés à Laval. L'un d'eux a été transféré au CHU d'Angers, un autre à l'hôpital du Mans et un troisième à l'USC à Mayenne. Les soignants redoutent une troisième vague début janvier, pas certaine mais probable.
Et en tout cas, les soignants s'organisent aussi pour la prochaine étape, la vaccination.
En Mayenne, trois EHPAD qui ne dépendent pas du centre hospitalier de Laval commenceront les vaccinations début janvier. Pour les autres EHPAD en lien avec l'hôpital lavallois, il va falloir être un peu plus patient. Les précisions de Sylvie Lequeo, la directrice générale adjointe de l'hôpital.
Nous sommes approvisionnés par ce qui est appelé le flux B. Alors, nous allons recevoir un super congélateur, donc ces congélateurs spécifiques qui permettent la conservation des vaccins à moins 80 degrés. Mais cet équipement ne sera livré que vers la mi-janvier. Et les premières livraisons de vaccins pour nos EHPAD, donc, n'interviendront qu'à partir de la mi-janvier. Alors, par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne fasse rien, parce qu'on se met évidemment en ordre de marche et c'est un parcours qui est quand même assez complexe. Il faut organiser une première consultation médicale, il faut ensuite recueillir le consentement du résident. S'il n'est pas en mesure de le donner, il faut obtenir le consentement de la personne de confiance ou de la famille. Il faut ensuite arrêter, organiser les vaccinations et il faut tracer tout ce parcours vaccinal dans un outil spécifique.
Pour l'heure, la Haute Autorité de Santé doit donner son feu vert au vaccin. Ce sera demain jeudi, ce qui permettra de commencer les consultations médicales pré-vaccinales dans les EHPAD ainsi que le recueil du consentement.
Allez, changeons un petit peu, allons sur la culture, les bouffées d'art de retour pour les fêtes.
Une quinzaine d'artistes proposent de partager leur talent pour vous, le temps d'une chanson, d'un conte ou d'un morceau de musique. Vous pouvez réserver pour demain le 24 décembre, ou bien le lendemain, le 25, le 31 décembre, ou même pour le 1er janvier. Interview de Bretelles et Garance sur ce sujet, justement, à retrouver sur notre site l'autreradio.fr, évidemment, rubrique l'AJT du local.
Évidemment. Et donc aussi la fermeture de la mairie de Château-Gontier pour les fêtes.
L'hôtel de ville de Pays de Château-Gontier et les mairies annexes de Bazouges et la mairie déléguée d'Azé seront fermés exceptionnellement au public demain jeudi et le jeudi 31 décembre dans l'après-midi. Ce sera aussi le cas les samedis matins 26 décembre et 2 janvier. La mairie déléguée de Saint-Fort sera, elle, fermée à partir de demain et ce jusqu'au 5 janvier inclus.
Et point vigilance jaune en Mayenne.
Pour vent violent et pluie inondation, Météo France a placé l'ensemble de la région et donc le département en vigilance jaune pour vent violent et inondation jusqu'à demain matin 6h. Et puis ce sont encore d'autres conditions météo qui attendent Maxime Sorel sur le Vendée Globe. Le skipper de Vienne-Bimayenne est toujours 10e à 546 000 nautiques du leader. Tous les skippers s'apprêtent à faire face à un important anticyclone en Pacifique Sud.
Et à 17 ans, Et oui, à 17 ans, elle décroche la médaille d'or en coiffure.
Lise Legros travaille chez Stéphatif à l'huisserie. Elle a décroché début décembre le titre de meilleure apprentie de France en coiffure dame. Après un CAP coiffure à Saint-Hilaire-du-Maine, elle est donc en première année de brevet professionnel et elle a voulu se lancer dans un nouveau challenge.
Au tout départ, c'était juste pour voir comment se déroulaient les concours, comment ça se passait, on va dire aussi le stress, les entraînements, tout ça. Au début, c'était juste pour voir comment se déroulaient les concours. Et c'est très différent du salon. On voit des coiffures qu'on ne fait pas du tout en salon, en fait. C'est vraiment autre chose que le salon. Donc, ça me permettait de voir aussi d'autres techniques. C'est beaucoup du travail manuel, en fait. On travaille beaucoup avec nos mains. Et les produits de technique tels que le gel, la laque, la brillantine pour bien finir notre chignon en fait, notre coiffure. Donc là, un chignon avec un bon volume, bien lisse, avec du crépage, enfin plein de techniques de coiffure.
Et c'est justement ce chignon qui lui a permis de décrocher la médaille d'or, une surprise pour la jeune femme.
Franchement, je m'y attendais pas du tout à entendre mon prénom. Quand j'ai entendu mon prénom, j'ai regardé mon modèle, je me suis dit c'est vraiment moi. Et puis bah du coup, bah on monte sur le podium, on nous prend en photo, enfin c'est vraiment quelque chose de magique, on va dire. Enfin, quand on s'y attend pas, c'est surtout très surprenant en fait. On est surpris d'entendre notre prénom. Une fierté déjà pour aussi mon employeur, pour ma famille. Ça montre aussi que je suis motivée, que j'aime vraiment bien la coiffure, que je suis passionnée par ce métier. Enfin, même pour plus tard, avoir ça sur un CV, ça, je pense que ça va permettre de m'aider à trouver pas mal de travail et montrer que je suis vraiment, vraiment motivée dans ce métier. J'ai toujours voulu faire ce métier-là depuis toute petite. J'ai jamais eu d'autres idées de métier. J'ai eu que la coiffure en tête. Franchement, tout me plaît en coiffure. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup faire les coiffures, enfin les chignons et tout, mais les coupes me plaît beaucoup aussi, enfin faire différentes coupes parce que dans chaque coupe il y a une technique différente, donc pareil, voir plusieurs techniques de coupe me plaît beaucoup aussi, et aussi les effets de couleurs qui sont très sympas à faire, c'est vraiment sympa, il y a plusieurs choses à faire en coiffure, donc on va dire on fait pas tout le temps la même chose, ça change.
Et vous l'avez compris, Lise Legros ne compte pas s'arrêter là. Elle envisage déjà de participer aux Olympiades des métiers et de poursuivre ses études en BTS ou en brevet de maîtrise d'ici 2 ans. On poursuit donc avec notre interview consacrée aux associations. D'ici 3 minutes, juste le temps d'écouter Boulevard Désert avec Zaz sur le titre « Demain de bon matin ».
Mes chers amis, je suis en fête. Mes chers voisins, mon cher facteur, je vous laisse enfin une lettre que vous lirez tout à l'heure.
On va pas se mentir cette fois, pour la dernière, je veux être clean. C'est le cœur libre que je vous quitte, sans grand discours et sans émoi.
Je laisse tomber, j'abandonne, je largue tout, je pars devant. À vrai dire, je me trouvais morne, un peu pervers, un peu navrant. Ce n'est pas pour vous fâcher, et entre nous ça change à rien. Mais je m'en vais déserter, je pars voyager avec mon chien.
Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes.
J'ai l'impression que pour le môme que j'étais, tout était tracé jusqu'à devenir un homme, alors je me suis laissé aller.
Le changement se déroule d'un coup d'un seul comme un coup de boule. C'est lorsque plus rien ne vous choque qu'on accepte de baisser son froc.
Alors tout devient secondaire, les enfants, la mer et le froid. Et l'important c'est la carrière, vous comprendrez mon désarroi. Alors demain de bon matin, je laisserai tout derrière moi. Et ce sera moi l'orphelin de mes projets et de nos choix.
Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Oh, oh, oh.
Et en passant mais pas plus con, mon cœur et mon corps à l'envie renaîtront petit à petit.
Si je croise un de vos riens en cours de route, j'en suis sûr, nous trinquerons à la nature, à nos amours et à mon chien.
Qu'on ne me parle plus jamais, ni de mon job, ni de ses faits, qui en ferait de moi dégueulasse, qui sont des traits qui me dépassent. Pour ceux qui jugent ou me recherchent, car je suis pas tout blanc, je l'avoue, j'ai pas dites-leur que je me perche, inutile de me mettre au trou.
Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes.
C'était Boulevard des Airs sur l'autre radio. Vous écoutez bien l'agité du local. Et on poursuit donc avec l'interview consacrée toute cette semaine donc aux associations. Avec toi, Anthony.
Et oui, Marie, troisième temps de cette semaine, donc sur le tour d'horizon des structures, des acteurs, des dispositifs qui existent en Mayenne pour accompagner les associations. Et aujourd'hui, on part à la découverte du DLA, donc dispositif d'accompagnement local, avec Sophie Maurice pour France Active Pays de la Loire, et les outils d'accompagnement que peuvent proposer les banques, dont le Crédit Mutuel, avec Thierry Duren, chargé d'animation. Bonjour à vous.
Bonjour l'autre radio, bonjour Anthony.
Première question Sophie Maurice, qu'est-ce que France Active Pays de la Loire ?
France Active c'est un réseau qui vient en soutien au développement dans les territoires et notamment à l'emploi. Le cœur de métier de France Active c'est bien le financement, donc pour les créateurs d'entreprises classiques, hein, les TPE, mais aussi pour les structures de l'économie sociale et solidaire, dont les associations.
Et pour les assos justement, vous proposez un dispositif intitulé DLA, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait. Le DLA, donc dispositif local d'accompagnement, c'est bien cela. C'est un dispositif d'État. Donc, dans chaque département de France, il y a un opérateur qui porte ce dispositif-là. Donc, effectivement, pour la Mayenne, le DLA est porté par France Active Pays de la Loire. Mmh. Et donc, il a pour objectif de venir en soutien à l'emploi dans les structures associatives employeuses. Ça peut être une dizaine d'emplois comme un emploi salarié, ça peut être du temps partiel également. Mais voilà, c'est important qu'il y ait cette dimension emploi.
Premier critère pour bénéficier de ce dispositif, c'est donc d'être une structure employeuse, c'est ça ?
Voilà, tout à fait.
Okay.
L'idée de cet accompagnement, c'est de pouvoir offrir, en tout cas proposer aux structures associatives une réponse et un accompagnement unique. À chaque fois, c'est du cas par cas, il n'y a pas deux accompagnements qui se ressemblent et c'est vraiment en fonction des besoins de chaque association. Donc ça peut être les questions économiques évidemment qui reviennent régulièrement, surtout cette année, modèle économique, financement, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'accompagnements qui sont autour des sujets liés à l'organisation interne, RH ou bénévolat, gouvernance associative. Pour présenter schématiquement, on va dire, le dispositif, c'est un accompagnement dans la durée. Il y a une première étape de diagnostic qui est réalisée donc avec le chargé de mission DLA, donc moi-même pour la Mayenne, où on va mieux connaître l'association et prioriser les besoins d'accompagnement. Éventuellement également faire du lien avec d'autres acteurs de l'accompagnement du territoire. La deuxième étape, ça va être la sélection et le financement d'une prestation de conseil réalisée par un consultant, un cabinet externe, donc qui va être mis à disposition pour travailler avec la structure. Et c'est un accompagnement dans le temps, puisque la troisième étape, il y a un suivi qui est réalisé un an après environ, l'année suivante, pour essayer de voir qu'est-ce qui a pu être mis en place parmi les préconisations du consultant ou ce qui n'a pas pu être mis en place du fait de problématiques. Donc c'est en rien un contrôle, c'est vraiment dans le cadre, dans le but de pouvoir suivre sur du long terme l'association et ses dirigeants.
Pour qu'est-ce qui peut justement nous amener, en tout cas en tant qu'association ou en tant que en tant qu'association, qu'est-ce qui peut m'amener à la réflexion de me dire tiens, ça peut être intéressant de rentrer dans ce dispositif-là. Quelle est la porte d'entrée ?
Plusieurs choses, mais cette année particulièrement, enfin là je pense vraiment en ce moment, les associations ont vraiment été au cœur de l'action cette année, que ce soit, enfin il y a eu beaucoup d'attentes dans le maintien du lien social par exemple, voilà, les associations étaient vraiment présentes et en même temps elles ont été très impactées. Questionnement sur les ressources financières de l'association, questionnement sur les nouvelles formes du bénévolat. Enfin, on a vu qu'il y a eu des difficultés à mobiliser des bénévoles et en même temps des nouvelles personnes qui souhaitaient se mobiliser étaient disponibles. Donc voilà, c'est des questionnements vraiment liés à l'actualité qui peuvent être l'occasion justement pour les dirigeants de se dire bah voilà, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent. Des difficultés ou bien des nouvelles opportunités. Donc, c'est aussi un bon moment pour se poser ensemble, se poser des bonnes questions et pouvoir se projeter pour l'année à venir et les années suivantes. Mais ce n'est pas un dispositif nouveau, il existe depuis plusieurs années. Donc, c'est aussi une réponse pour des besoins un petit peu plus structurels. Et voilà, des besoins qui étaient déjà présents, enfin des questionnements qui étaient déjà présents dans les structures associatives comme l'organisation interne, hein, les sujets liés à la gouvernance, les statuts, le projet associatif, c'est des sujets qui sont moins d'actualité, on va dire, mais tout aussi importants.
Donc ça peut permettre aux associations de relever un peu, je dirais, la tête du guidon, de ressortir les dossiers qu'on ne prend pas ou qu'on n'a peut-être pas le temps nécessaire pour s'y pencher.
Oui, tout à fait. En général, c'est ça qui est le plus apprécié en fait par les dirigeants à la fin de l'accompagnement. C'est ce qui ressort le plus de pouvoir, les dirigeants, que ce soit bénévoles ou salariés, sont souvent la tête dans le guidon à gérer le quotidien. Et donc, le fait d'avoir ces temps-là dédiés, consacrés au projet, à la réflexion, aux échanges, en plus du coup avec cet encadrement, cette animation par un tiers extérieur, c'est vraiment quelque chose qui est bien apprécié et qui ressort des échanges que l'on peut avoir à la fin des accompagnements.
Et concrètement du coup, c'est comment je fais ? Ça me coûte quelque chose ? Quelles sont les dispositions pour bénéficier de cet accompagnement ?
Alors non, c'est entièrement pris en charge par nos financeurs, que sont l'État, la Direct, la Caisse des dépôts et la région. Donc, c'est entièrement gratuit pour les associations qui sont éligibles, évidemment. Donc, ça nécessite un échange avec moi pour pouvoir vérifier l'éligibilité de l'association et également vérifier que le DLA correspond bien aux besoins, puisque il y a d'autres dispositifs sur le territoire d'accompagnement. Et donc, voilà, c'est un certain formalisme, une certaine procédure, et donc ça ne répond pas à tous les besoins. Donc, ce premier rendez-vous est essentiel pour vérifier que le DLA est bien adapté aux attentes et aux besoins d'accompagnement.
Est-ce que l'on peut citer plusieurs exemples, plusieurs thématiques sur lesquelles vous êtes régulièrement sollicité, ce qui peut peut-être amener à la réflexion d'autres associations qui nous écoutent ?
Plusieurs exemples, mais notamment par exemple projet stratégique. C'est vrai que beaucoup d'associations n'établissent pas forcément de projet stratégique formalisé. Et voilà, c'est un sujet qui revient assez régulièrement. C'est pas forcément la demande initiale, mais en tout cas un accompagnement des accompagnements qui permettent à l'association de définir un petit peu où est-ce qu'elle veut aller pour les trois années suivantes, avec un plan d'action, une feuille de route pour l'année à venir. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est assez fréquent et structurant pour l'association. Autre sujet très concret et qui revient assez régulièrement aussi, c'est vraiment l'organisation interne et le qui fait quoi. Il y a souvent une confusion, ou en tout cas, c'est pas forcément bien clarifié et formalisé de voilà, les missions du bénévole, du président, du directeur. Voilà, il y a parfois une confusion dans certaines associations, ou en tout cas, c'est pas forcément formalisé, donc tant que ça se passe bien, tout va bien. Mais voilà, le jour où il y a des changements en interne ou des difficultés, comme ça peut arriver dans chaque structure, voilà, c'est quand même important de pouvoir avoir voilà, quelque chose de formalisé pour s'y référer.
Alors, si je suis intéressé par ce dispositif, comment est-ce que je vous contacte ?
Alors, déjà, il y a un site internet. Vous pouvez aller directement sur le site de France Active Pays de la Loire avec les différents interlocuteurs en fonction des départements. Et vous avez les coordonnées, en fait, avec numéro de téléphone ou email pour me contacter.
Merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, je me retourne maintenant vers vous, Thierry de Rennes. Donc, les banques, en tant que partenaires, peuvent également proposer différents dispositifs et pas seulement financiers, d'ailleurs. Alors, pour ce qui est du Crédit Mutuel, par exemple, vous proposez différentes aides et parmi celles-ci, une bien connue des associations qui est Créavenir. En quoi cela consiste exactement, Créavenir ?
Bonjour. On peut commencer effectivement par cette association qui est portée et donc qui est composé de nos élus hein, du territoire. Et les associations connaissent beaucoup l'outil qui leur est dédié dans Créavenir, qui est l'outil coup de cœur, qui est un dispositif d'accompagnement sous forme de subventions et de prêts d'honneur lorsqu'il y a des projets d'investissement dans l'association. Et donc Créavenir, cette année, en 2020, a malgré le contexte, malgré l'arrêt hein, associatif, on va dire pour certaines, a quand même accompagné à peu près 60% des dossiers qu'elle fait annuellement en termes de nombre et on est à peu près sur 70% du montant, qui montre quand même que l'association a souhaité, malgré moins d'affluence, moins de demandes cette année du fait du Covid, hein, bien naturellement, a quand même souhaité accompagner de manière significative parce que je pense que pour nos élus, c'est important de faire vivre cette association Créavenir qui joue un vrai rôle mutualiste en reversant effectivement une partie de ses bénéfices sur le territoire chaque année. Donc ça, je pense que ça nous tenait, nous en tout cas, à cœur, mais je pense que ça leur a tenu à cœur de pouvoir accompagner correctement les associations qui sont venues vers elles. Et Créavenir, juste pour aussi cette année, a été davantage sollicité par des projets un peu différents par rapport à d'habitude. Et je pense que le contexte Covid pour les assos était un contexte aussi de réflexion et d'aboutissement d'idées qu'il y avait depuis un certain moment dans l'association. Mmh. Et on a vu pas mal de projets assez innovants et surtout sur la question innovation sociale. Et donc là, Créavenir a aussi, même si ce n'est pas son cœur d'action, on va dire, hein, habituel, a quand même, pour un certain nombre, pas pour tous, parce que ça posait question parfois, mais et puis Créavenir est un conseil d'administration qui vit, hein, c'est humain, il y a des échanges. Donc parfois, il y a eu de bonnes conversations sur ces projets d'innovation sociale et a accompagné très très souvent ces actions.
Et d'ailleurs, il me semble que parmi les projets qui peuvent être aidés, il y a du lien possible entre vos structures puisqu'il y a un accompagnement spécifique proposé pour le DLA, c'est bien ça ?
Tout à fait. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, effectivement, l'accompagnement est entièrement financé par nos partenaires classiques, on va dire, du dispositif en région, mais nous avons aussi développé différents partenariats locaux. Et donc, avec Créavenir, on a un partenariat qui nous permet de proposer une journée supplémentaire d'accompagnement pour quelques associations. Donc voilà, parfois, effectivement, il y a un besoin complémentaire, supplémentaire qui est nécessaire. Et donc, ce partenariat avec Créavenir permet de proposer une journée supplémentaire. Ce n'est pas négligeable pour les accompagnements en cours.
Des acteurs qui se connaissent, c'est donc du coup une richesse du territoire rural. C'est tous ces partenariats qui peuvent se lier entre les différentes structures.
Effectivement, j'aime ce terme de partenaire. On recherche à un moment son partenaire bancaire. Et parce que la banque est un partenaire pour les associations. En Mayenne, on a à peu près la moitié des associations qui sont clientes du Crédit Mutuel et ça, on en est super fiers, on en est très contents et ça nous permet effectivement de créer des dispositifs vraiment de partenariat avec les associations. Tous nos partenariats locaux, hein, vous nous voyez très souvent visuellement le Crédit Mutuel sur le territoire. Ce n'est pas parce que le Crédit Mutuel crée plein d'actions dans tous les sens, non, c'est parce que les associations viennent voir les caisses locales pour être accompagnées dans leurs actions. Et donc, le partenariat au Crédit Mutuel, c'est à la fois effectivement un peu d'argent, parce que c'est nécessaire pour faire aboutir les projets. Et donc là, eh bien, on discute ensemble. Hein. Et puis aussi, c'est souvent beaucoup de matériel et d'humains mis à disposition des associations pour accompagner. On a nos bénévoles qui, bien souvent, se mobilisent sur les actions des associations. Hein. Et puis, on a du matériel qu'on met à disposition des associations, donc des camions, des chapiteaux. Alors voilà, vous nous avez vu un petit peu partout là-dessus. Et puis, on a mis quelque chose en place un peu cette année, un peu différent. C'est le kit Covid Asso. On a eu à peu près 400 demandes de kit Covid Asso, composé de gel, de rubalise et de masques pour les associations qui ont souhaité, malgré le contexte, quand même mener leurs actions à bout. Eh bien, au bout, eh bien, on avait ce kit à disposition.
Donc, du matériel à disposition des associations, mais il me semble également des outils techniques, en tout cas d'information ou d'aspects pratiques pour la vie des associations.
Oui, bien sûr. Alors, sur le côté information, on a un site qui s'appelle Associatech, qui est un site qui permet aux associations eh bien, d'avoir toutes les informations sur la gestion d'une association, les aspects de gouvernance, les aspects juridiques, les aspects comptables, les aspects organisationnels, comment j'organise ma manifestation, quelle déclaration je dois faire. Donc ce site associatech.fr est très très complet et on a mis aussi à jour eh bien, régulièrement des informations sur les aides possibles actuelles pour les associations, hein, le prêt garanti par l'État, le fonds de solidarité, donc des aides que les associations peuvent obtenir si elles se mobilisent pour les obtenir. Ouais. Et puis, on a mis en avant beaucoup, comme tu l'as dit, Hello Asso. Hello Asso est un outil de paiement dématérialisé. Et effectivement, les périodes que l'on vit, qui sont un peu éloignées humainement, où on n'a pas trop le droit de se rapprocher, on s'aperçoit que les utilisateurs d'Hello Asso, finalement, ont pris un petit temps d'avance. Et je pense que la digitalisation des associations va être un sujet vraiment en 2021, comme il l'a été en 2020 de manière un peu forcée. Je pense qu'il y a des habitudes qui se sont prises et Hello Asso a vraiment joué son rôle et continue à jouer son rôle, de jouer son rôle auprès des associations pour les demandes de dons, les demandes d'adhésion. On peut gérer vraiment beaucoup de choses avec ce dispositif gratuit.
Donc, beaucoup d'outils à disposition des associations, tels que le DLA et l'ensemble des outils proposés par le Crédit Mutuel. Avant de mettre un terme à cette interview, je vois le temps qui défile. Est-ce que vous voulez passer un dernier message pour les auditeurs ?
Eh bien, qu'il faut continuer à se mobiliser. Moi, je pense que voilà, les associations, elles ont besoin, comme tout le monde, hein, comme tout le monde avec le contexte, de pouvoir se projeter. Et c'est un message pour les bénévoles associatifs. On espère et on sera très très heureux de vous retrouver en 2021. Nous, on l'espère de tout cœur, et en tout cas, le Crédit Mutuel sera là. S'il y a un message à porter, c'est que le Crédit Mutuel sera là auprès des associations et auprès des bénévoles qui veulent se mobiliser en 2021.
Moi, pour terminer, effectivement, juste aussi pour dire que je suis bien consciente que c'est une période, ça a été une année difficile, une période compliquée pour les dirigeants associatifs parce que beaucoup d'incertitudes ou d'inconnus, mais c'est quand même le bon moment pour se poser des questions et essayer de se projeter.
Eh bien, se mobiliser, se projeter, innover, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter pour cette nouvelle année. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview et belle fin de journée.
Merci à l'autre radio. Merci. À bientôt.
Merci.
Au revoir.
Et demain, on continue, puisque pour ce dernier reportage, on aura plusieurs personnes, enfin en tout cas plusieurs associations qui, malgré le contexte, ont pris des initiatives et se sont mis en réseau, etc. Enfin voilà, tout un programme.
Eh bien, à découvrir demain en tout cas. Merci beaucoup Anthony pour cette nouvelle interview. On se retrouve d'ici quelques minutes après H. Burns avec son morceau « I Sail in Troubled Waters ».
Tell you I'm leaving tonight, but I wanna stay. But look at me and you say, don't go. There are different ways. And so the gravity got us back on a hardwood floor. I was feeling alright before, back in the spectral days. Sailing trouble. Trouble all the way.
L'autre radio et votre émission quotidienne L'Agité du local. Soizic est avec nous tout au long de cette semaine. On abandonne la chronique des objets pour un monde qui revient demain et on s'intéresse aujourd'hui à une problématique un peu plus large et en plein dans l'actualité. Bonjour Soizic, alors vous êtes de retour aujourd'hui pour une nouvelle chronique, un autre écho de l'écho, et aujourd'hui après le pangolin chinois, le wison occidental.
Et oui, il y a quelques chroniques, Marie, je vous parlais de la notion d'externalité négative en économie. Pour mémoire, les externalités négatives sont des conséquences malheureuses de la production dont le traitement n'est pas incorporé dans le prix. Et aujourd'hui, Marie, je me pose la question de savoir si finalement la pandémie de Covid-19 ne serait pas une externalité négative de notre système productiviste. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas possible. Le coronavirus est un virus tout ce qu'il y a de plus naturel. Rien à voir avec notre système économique. Le coronavirus, oui, mais l'ampleur de l'épidémie, à voir. En effet, au fur et à mesure de mes lectures en ce moment, je n'en suis pas si sûr. Vous avez notamment dû lire dans la presse que cette nouvelle variante qui sévit actuellement en Grande-Bretagne proviendrait d'un virus transmis à l'homme par des visons. C'est ce que l'on appelle la zoonose. Alors, Serge Morand, chercheur au CNRS, nous éclaire et il montre que durant des millénaires, les zoonoses, donc ces maladies qui proviennent des animaux qui se transmettent à l'homme, ont été étroitement corrélées à la domestication des animaux. Savez-vous, Marie, que les oreillons ou la variole proviennent de la vache quand nous l'avons domestiquée il y a des centaines de milliers d'années ? C'est étonnant quand même. Alors aujourd'hui, évidemment, les maladies proviennent surtout des animaux sauvages comme la chauve-souris, les singes, que les hommes côtoient quand ils défrichent de plus en plus de territoires encore vierges. Rendez-vous compte, la superficie forestière par habitant a été divisée par 2 en à peine 25 ans. Alors logiquement, ça a provoqué l'augmentation de la densité d'animaux et renforcé le voisinage humain-animaux. Ces animaux attrapant des agents pathogènes contre lesquels, eux, ils s'immunisent, mais qu'ils n'oublient surtout pas de nous transmettre au passage. À ce sujet, une étude de la revue Nature, Nature, indique que le nombre de zoonoses augmente fortement depuis les années 80, avec notamment le sida et Ebola transmis par les singes. Moi, je pensais que c'était une rumeur, mais non, 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 c'est avéré. Et la grippe aviaire transmise par les volats.
Mais Soisy, comment un animal peut-il transmettre un virus à l'homme ?
Alors, on pourrait attraper le virus d'un animal en trace directe. Mais bon, se faire mordre par une chauve-souris, en fin de compte, c'est assez rare. Et non, le truc, c'est incroyable, c'est que d'autres animaux deviennent des animaux relais, plus proches de nous, comme le singe pour Ebola et le sida, ou le cochon pour la grippe porcine. Alors, je vais prendre un exemple. Prenons l'exemple de la Malaisie à la fin des années 90. Il est éclairant. Les Malaisiens ont déboisé à tour de bras pour mettre en place des élevages intensifs de cochons. Or, à côté de ces élevages, vivent des chauves-souris. Ces chauves-souris mangent des fruits, laissent tomber à terre les déchets, et ces déchets sont mangés goulûment par les cochons. Vous voyez d'ici la fin de l'histoire, le virus de la chauve-souris se transmet en un temps record à l'homme par le biais du cochon. Alors à l'époque, l'épidémie qui s'en est suivie a fait une centaine de morts et fut à l'origine de l'abattage d'un million de ces pauvres bêtes. On est donc bien là en présence d'une externalité négative liée à l'activité humaine. De la même façon, Serge Morand dénonce les conséquences possibles de l'exploitation des mines de coltan au Congo par des travailleurs sous-payés. En effet, la misère de ces travailleurs les contraint à manger des animaux sauvages potentiellement porteurs de virus pathogènes pour l'homme. Et c'est comme ça que, sans que nous nous en doutions, la fabrication de nos téléphones portables pourrait ainsi être à l'origine d'infernales pandémies. Alors, vous rajoutez à ces externalités le fait qu'en 25 ans, le trafic aérien a été multiplié par 7, que la population mondiale est passée de 4 à 7 milliards d'individus, dont 1 sur 8 vit dans un bidonville. Et par là-dessus qu'animaux sauvages et domestiques se rencontrent de plus en plus fréquemment, comme sur le marché de Wuhan, et vous obtenez un cocktail explosif au niveau de la propagation d'un virus. Le pire dans l'affaire, c'est que tout cela paraît extrêmement logique, et donc est entièrement prévisible. Et à mon avis, c'est pour ça d'ailleurs qu'il existe, quand on se penche dessus, depuis de nombreuses années, toute une littérature scientifique sur l'imminence de pandémie mondiale. Même mon médecin généraliste m'en a parlé et pour lui, c'était évident. Alors aujourd'hui, nous voyons sortir cette histoire de vison. Pour plus de précision, je vous renvoie à l'excellent dossier en cours sur le sujet de Reporter. Le Monde, le journal Le Monde, mène également l'enquête et je vous garantis que ça fait froid dans le dos. Il semblerait en effet que dès le mois de mars, les visons soient en cause dans le développement de la pandémie. De nombreux chercheurs font aujourd'hui le lien entre le déclenchement de l'épidémie en Italie en pleine campagne et la présence d'élevages de visons au même endroit. Idem au Danemark, où on a abattu plus de 17 millions de ces pauvres bêtes, rendez-vous compte. Et on retrouve cette même corrélation très forte en Pologne, en Hongrie, en Grèce, en Finlande, au Canada, aux États-Unis, en Chine et dans bien d'autres pays qui cultivent les animaux à fourrure. Alors, on avait beau jeu de se moquer des Chinois et de leurs pangolins, mais on aurait aussi pu balayer devant notre porte. Hein. Vous vous rendez compte, Marie, une épidémie mondiale comme conséquence de la fabrication de manteaux pour vêtir une minorité d'individus fortunés dans le monde. En plus de l'aspect éthique de ces élevages, je trouve vertigineux de se dire qu'une production aussi inutile, surtout avec le réchauffement climatique, pourrait déclencher un tel séisme économique et social.
Effectivement, c'est vraiment vertigineux, incroyable. Mais que peut-on faire ?
Alors, les remèdes, bah, ils sont simples, on les connaît tous, hein, d'une simplicité à pleurer. Sobriété dans les échanges, agriculture plus responsable, échanges localisés, diminution de la malbouffe pour diminuer les risques de comorbidité et respect des territoires sauvages. C'est simple. Et pourtant, Marie, la réponse au désastre écologique imminent en ce moment en France consiste à intégrer la notion de développement durable à la Constitution. Alors, je ne sais pas vous, mais personnellement, j'ai quelques raisons de penser que le pire n'est pas forcément derrière nous.
Merci beaucoup, Soisic, pour cette chronique éclairante. Et on le dit un peu en tout cas sur un sujet très, très important. On va apporter un petit peu de légèreté puisque là, c'est le troisième épisode de notre série chez le chocolatier et biscuitier Réauté, avis aux gourmands aujourd'hui puisqu'on va parler recettes de bonbons en chocolat et processus de fabrication, toujours en compagnie de Violette Huolmé qui s'occupe de l'espace visite et des formations pour les responsables du magasin.
Par quelles étapes, donc le chocolat lorsqu'on le reçoit, après vous avez, nous on travaille toujours les intérieurs. Donc on va d'abord réaliser l'intérieur, soit comment dire, comme du praliné, amandé noisette avec du croustillon, donc le premier chocolat qui a été créé, les maillotes. Après vous allez avoir, comment dire, la deuxième étape, l'enrobage, et après comment dire, le conditionnement. Ça c'est plutôt les grosses étapes pour nous chez Réauté Chocolat.
Les chocolats qu'on peut trouver dans toutes les boutiques sont produits ici en tout cas.
Exactement. Donc sur les deux sites à Château-Gontier, donc celui-ci de Saint-Fort dans un premier temps, et le deuxième qui se situe vraiment à 3 minutes de celui-ci, que vous pouvez voir direction route de Laval. On les stocke, mais ils partent très très vite. Il faut savoir qu'on a, faut pas oublier que nous avons 59 boutiques, qu'on les livre toutes les semaines, et comment dire, on livre un certain nombre de colis dans chaque magasin. Donc on les vend très régulièrement. Donc c'est vrai qu'à la fin de la saison de Noël, nos stocks sont très bas. Il faut reproduire justement pour la saison d'après. Donc non, ne vous en faites pas. Les clients sont gourmands, les Français sont gourmands, les étrangers sont gourmands, même si là actuellement, avec la pandémie, on a beaucoup moins d'étrangers, mais on compte sur les Français. Tous nos ingrédients, on essaye, comment dire, d'aller au plus proche pour la farine, pour les œufs, faire vivre nos producteurs locaux également. Et oui, on veut garder cette origine, d'une part parce que les clients nous le réclament, parce que lorsqu'on est en rupture, on se fait taper sur les doigts, faut pas croire. Donc on a obligation d'avoir nos produits phares. Ouais, nos clients l'exigent. On a toujours nos incontournables. Donc le premier chocolat qui a été créé par Roland et Madeleine Réauté, donc le Maillotte, malgré tout c'est un incontournable. Vous avez les carrés feuilletés, donc c'est le deuxième chocolat, et les carats. Ça c'est les trois inconditionnels. Après vous allez retrouver un chocolat à base de caramel, les caramels beurre salé, donc texture fondante. Vous allez avoir nos fameuses truffes pour Noël. On a créé des nouveaux chocolats à base d'alcool, le muscadine, avec de l'orange et du Cointreau. On essaye d'innover, comment dire, chaque année nous avons une vingtaine de produits qui arrivent dans nos boutiques, que ce soit en chocolat et en biscuit. On a un service recherche et développement qui crée tous les produits régulièrement en fonction des fameuses tendances également pour les réaliser. Donc oui, ils sont vraiment très compétents et sont toujours à l'affût de la dernière nouveauté.
Dernier épisode de notre série demain sur l'évolution de l'entreprise. Et on termine avec notre rubrique initiative, croquer des fossiles sans risquer de se casser une dent. Et oui, c'est possible parce qu'ils sont en chocolat. C'est ce que vous propose 27 artisans chocolatiers de la Mayenne, de la Sarthe et de l'Orne. Une manière gourmande de promouvoir la candidature du parc régional Normandie-Maine au label UNESCO Géoparc. À retrouver notamment à Lassay-les-Châteaux, Baie, Pré-en-Paille, Vilaine-la-Juhel et Saint-Pierre-des-Nids. Un groupe Facebook pour soutenir les artisans et commerçants locaux. Ce n'est pas vraiment une nouveauté, mais celui-ci a très bien fonctionné. Plus de 4000 artisans et commerçants mayennais en sont membres. Lancé par Joachim Chausset, il souhaitait maintenir le lien entre commerçants et avec les clients, avec des opérations spéciales Noël notamment. Pour retrouver le groupe, rien de plus simple, puisqu'il s'appelle Artisans Commerçants du 53. Toujours dans l'optique des cadeaux locaux, l'Office du tourisme de Mayenne propose sa propre boutique de Noël, avec cidre, vaisselle, biscuits et bières à retrouver parmi les rayons, et même quelques nouveautés comme des vinaigres aux parfums originaux ou des poteries artisanales. Tout vient évidemment du coin, 100% local, c'est tout l'intérêt, et vous pouvez même confectionner votre propre panier gourmand pour offrir. C'est ouvert de 13h30 à 17h30 cet après-midi. Attention, il ne reste plus beaucoup de temps. C'est déjà la fin de notre émission L'Agité du local avec Anthony. Merci Anthony.
Oui. Eh bien, à demain. Merci Marie.
Et oui, merci beaucoup en tout cas d'avoir remplacé Claire au pied levé.
Oui, on lui fait un grand coucou à Claire si tu nous écoutes, ce qui est certainement le cas d'ailleurs.
Eh bien oui, effectivement, coucou à Claire, et puis on se retrouve évidemment après les vacances. Mais vous ne partez pas tout de suite, puisque à suivre, il y a donc Novorama à 19h, à 21h Tarrant's Jazz Hour. Et nous, donc vous l'avez compris, on se retrouve demain à 12h15. Je vous souhaite une très bonne après-midi et une bonne fin de journée.
Reportage, invité, interview. Voilà, c'est l'agité du local.